Bonjour à tous, je me présente Stéphane Adoucet. Je vais vous présenter donc la reprogrammation et le traitement du syndrome fémoro-patellaire. Quelques généralités pour commencer. Donc, le syndrome fémoro-patellaire, c'est donc classiquement une douleur antérieure au niveau de la patella. On va exclure les lésions périarticulaires et péripatellaires comme on peut retrouver comme des tendinopathies du cordyceps ou du tendon rotulien. Les anglo-saxons donc parlent, vous retrouvez ça dans la littérature assez fréquemment, de tracking de la patella, donc qu'on peut traduire par mauvais trajet. Donc il s'agit vraiment d'une certaine cinématique de la patella qui va poser problème. Ce syndrome fémoro-patellaire, donc c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment. Donc d'après cette étude-là de 2013, on retrouve 25 à 40% de lésions du genou, de douleurs antérieures du genou liées notamment au sport. Classiquement, on trouve plutôt un rapport de 3 femmes pour un homme. C'est plutôt une pathologie du sujet jeune, sportif, mais c'est vrai que dans toutes les études que j'ai pu trouver et voir, il y a une grande variabilité en fonction notamment de soit du sport pratiqué, des études, etc. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est que c'est quand même une pathologie qui est vraiment fréquente et qui touche plutôt le sujet jeune. Donc, ce syndrome fémoro-patellaire, il faut, dans les étiologies possibles, il faut surtout avoir en tête qu'on est surtout sur un problème de stabilisation. Il faut savoir que la stabilisation de la rotule, elle est indispensable parce qu'il y a une composante subluxante externe qui agit sur la rotule. Donc, plusieurs systèmes de stabilisation pour cette rotule. Une stabilisation passive, comme la capsule, la trochlée, les rétinaculums, le ligament patello-fémoral, mais aussi et surtout des stabilisations actives avec le tendon quadricipital et rotulien, le quadriceps, donc surtout la partie du vaste médial oblique et la bandelette iliotibiale. S'il y a une dysbalance entre ces stabilisateurs, eh bien on va avoir ce mauvais tracking de la patella. Dans les étiologies possibles, c'est cette étude-là de 2005 montre que le positionnement de la hanche lors de l'activité sportive en rotation interne et adduction peut entraîner donc une diminution de l'aire de contact de fémoro-patellaire. Et cette position, souvent, est due à un déficit de moyens fessiers. Donc, on le verra tout à l'heure dans les possibilités de traitement avec la reprogrammation neuromotrice. Ce moyen fessier va être un des muscles cibles sur lesquels on va pouvoir agir. Le déficit musculaire va altérer le contrôle neuromusculaire et la chronologie de la réponse musculaire, et donc on va retrouver un déséquilibre de l'activité entre le vaste médial oblique et le vaste latéral. Donc on retrouve souvent un déficit musculaire de ce vaste médial. Alors il est difficile, et toutes les études que j'ai pu lire ne sont pas d'accord sur est-ce que c'est par exemple la douleur qui crée le déficit, est-ce que c'est le déficit qui va engendrer un déséquilibre qui va engendrer la douleur. Pour l'instant, c'est difficile de répondre. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'on retrouve cette baisse d'activité du vaste médial et qui va vraiment engendrer un problème de stabilité de la patella et qu'il va falloir donc travailler. La rééducation va donc les principes vont être de diminuer les contraintes excessives de tous les tissus mous périarticulaires. Donc là, que ce soit massage, crochetage, travail d'étirement, notamment des ischio-jambiers, travail du tractus iliotibial, de la bandelette iliotibiale est importante car il y a vraiment une action de ce tissu sur la rotule vers l'extérieur qui va augmenter cette contrainte et cette composante de subluxation externe. Donc il va falloir ça travailler. Il va falloir aussi améliorer la force et l'activation du quadriceps, donc comme on en a parlé, du vaste médial oblique, mais aussi corriger tous les déficits musculaires, que ce soit de la hanche, du tronc, du pied, que l'on pourrait retrouver et qui peut amener, on l'a vu sur le schéma précédent en biomécanique, une attitude du tronc et du membre inférieur, donc notamment en valgus, qui va entraîner donc non seulement des risques pour le genou, mais une composante subluxante externe excessive qui va entraîner un syndrome fémoro-patellaire. Donc, on va s'arrêter un petit moment sur les inhibitions motrices, puisque c'est le cœur de ce qu'on voudrait parler aujourd'hui. On va volontairement, hein, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, d'être concentré sur tout ce qui est reprogrammation neuromotrice. Donc, aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans le détail de toute la rééducation. On va se concentrer sur la reprogrammation neuromotrice. Et donc, pour cela, définir ce qu'est les inhibitions motrices. Donc, les inhibitions motrices, c'est un mot que l'on retrouve souvent, mais on a du mal à savoir quoi mettre en face. Donc, c'est vrai que si on recherche dans la littérature, on va retrouver, il n'y a pas grand chose, à part l'inhibition comportementale, notamment chez les psychomotriciens, mais c'est quand même quelque chose d'assez peu étudié. La seule chose que vous pouvez retrouver assez fréquemment, c'est au niveau du genou, post notamment opération de ligamentoplastie du genou. Vous allez retrouver sur des inhibitions, des études sur les inhibitions du quadriceps. Pourtant, cette inhibition motrice, elle est vraiment capitale. Donc, c'est la capacité à arrêter les actions en cours et c'est une fonction importante. C'est un mécanisme normal et adaptatif du cerveau qui va permettre un ajustement de la motricité et d'éliminer tous les mouvements parasites. Donc, ce qui se passe, c'est que le cerveau va à la fois inhiber certaines fonctions, en actionner d'autres, et cet ajustement permet de faire un mouvement adéquat. Donc l'excès, le problème, c'est si cette inhibition perdure. Voilà. Si on peut rapprocher un petit peu quelque chose, ça serait par exemple l'inflammation. L'inflammation, c'est un mécanisme tout à fait normal du corps humain. Quand on a une lésion, par exemple, on va avoir une inflammation qui va permettre d'éliminer et d'amener tout ce qui va permettre de la cicatrisation d'un traumatisme. Eh bien, l'inhibition, c'est un peu la même chose. C'est que c'est un processus normal. Ce qui va poser problème, c'est l'excès d'inhibition et qui peut perdurer et qui va être considéré comme quelque chose de pathologique et va créer des problèmes dans la rééducation. Donc non seulement cette inhibition peut toucher la qualité de la contraction musculaire, mais aussi perturber l'activation des contractions musculaires nécessaires à la bonne réalisation d'un mouvement. Dans le cas d'inhibition motrice, ce qui va se passer, c'est que cet enchaînement va devenir dysfonctionnel, on va mettre en place un mouvement adaptatif et on va avoir du mal à revenir dans le schéma moteur primaire. Donc, pour définir ces inhibitions motrices, il y existe deux visions. Une première vision distale qui, pour certains lenteurs, consisterait à une modification, comme je l'ai marqué, des information fournie par les récepteurs de l'articulation et du muscle, ça va réduire l'excitabilité des motoneurones et empêcher toutes les voies motrices de permettre une activation pleine du muscle. Pour vous donner un exemple, par exemple, c'est le gonflement du genou lors des séquelles de traumatisme ou d'opération du genou. Et bien, ce gonflement va entraîner une diminution de l'excitabilité des motoneurones et peut entraîner une sidération du quadriceps, donc une inhibition du quadriceps. Deuxième vision, c'est une vision plutôt proximale, donc là qui va nous amener au niveau du cortex moteur. On va le voir par la suite comment se passe la commande motrice. Vous avez tout ce qui est afférence, donc soit les afférences extéroceptives, soit les afférences proprioceptives qui vont remonter au niveau du cerveau. Donc les afférences proprioceptives font un premier relais au niveau du thalamus. Donc le thalamus se situe au niveau du cortex à la base et permet tout ce qui est imagination du mouvement. Ensuite, le cortex pariétal et préfrontal, donc ça c'est tout ce qui est sensitif qui va analyser le mouvement à réaliser, va passer aux ganglions de la base. Les ganglions de la base vont élaborer un schéma moteur qui, une fois qu'il est validé, va partir dans les aires motrices, le cervelet, puis redescendre, donc tout ce qui est descendant, le cortex moteur primaire, le tronc cérébral, etc., et les motoneurones. Donc, cette vision proximale nous amène à dire qu'il peut y avoir une inhibition au niveau de ces ganglions de la base, donc au niveau des noyaux gris centraux, qui vont entraîner un blocage, une inhibition, donc d'origine centrale. Ça peut être une appréhension suite à une douleur, suite à quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui va altérer le schéma moteur de façon des fois pérenne. Donc les conséquences à tout ça, c'est on peut avoir une atrophie musculaire, une baisse de la contraction maximale volontaire, une gêne dans la stabilité de l'articulation et dans sa fonction, un retard dans la rééducation qui va gêner le renforcement musculaire, donc ça nous arrive assez fréquemment en rééducation, d'avoir quelqu'un qui, par exemple, va avoir une rééducation qui va progresser de façon linéaire, normale, et à un moment donné, on va avoir une phase plateau et on ne sait pas pourquoi. pourquoi, il y a quelque chose qui le bloque et l'empêche de progresser. On peut avoir aussi donc une perturbation du schéma moteur de contraction et une douleur, mais plutôt une douleur gêne. Ce ne sera pas une douleur vraiment très aiguë, ce qui peut être un facteur de complication à réaliser une séance de reprogrammation onirique, mais c'est plutôt quelqu'un qui va dire, ben voilà, quand je fais ce mouvement, je ressens une gêne, un tiraillement, ça irradie, voilà. Ça sera plutôt ça qui nous orientera vers une reprogrammation neuromotrice. Donc pour faire ces diagnostics, donc des inhibitions motrices, on va se servir d'un protocole de testing musculaire classique, global, côté de 0 à 5, comme on peut retrouver notamment aussi en neurologie, donc avec 0, aucune évidence de contraction, 1, contraction minime, mais pas de mouvement sans pesanteur, et bien on va aller jusqu'à 4, 5, donc souvent on va retrouver plutôt des gens avec une cotation 4 ou 5. Donc 4, c'est une amplitude avec résistance partielle ou avec une notion de fatigabilité. Et 5, une amplitude tout à fait normale avec un muscle tout à fait normal. Donc par rapport au sujet, on l'a vu, donc le syndrome foamo-patellaire, on l'a vu, il y a deux muscles cibles clés sur lesquels on va focaliser notre attention. C'est le moyen fessier et le quadriceps. Donc le moyen fessier, pour le tester, plusieurs possibilités. Soit on le teste en décubitus, le patient est allongé sur le dos, le thérapeute va stabiliser avec une main le bassin et placer la seconde sur la face latérale de la cuisse du sujet. On va demander au patient de pousser vers l'abduction et de décrire, et ça c'est important, c'est là la différence qu'il peut y avoir avec un testing musculaire normal. Là, ce qu'on recherche, c'est surtout faire décrire au patient un maximum de sensations. C'est autre, voire même autre que je suis plus fort ou je suis moins fort, mais j'ai du mal, j'arrive pas à savoir comment contracter, ou je sens, comme j'ai dit tout à l'heure, une gêne que je n'ai pas de l'autre côté, hein, tout ça, c'est, de toute façon, c'est des testings qui sont bilatéraux. Hein. Ça va être aussi quelqu'un qui va dire, là, je sens tout à fait, ils vont du mal à décrire, dire c'est mon moyen fessier, à part s'ils connaissent un petit peu leur anatomie, mais la plupart du temps, ils vont dire, là, je sens quelque chose dans ma fesse, de l'autre côté, je ne ressens rien. Ensuite, deuxième possibilité, c'est celle d'ailleurs que je préfère, c'est en latérocubitus. Donc là, le patient est sur le côté, droite ou gauche, de toute façon, on va faire les deux côtés. On demande de pousser contre la pesanteur ou, si c'est assez facile, de faire un break test. Donc on va pousser ici, là, plutôt sur la cuisse du sujet, lui demander de résister et faire un comparatif droite-gauche et pareil. Décrire les sensations. Alors, la première, souvent, hein, c'est fort, où j'y arrive pas du tout, je lâche. Je ne sens pas de force, mais après creuser un petit peu plus pour savoir un petit peu s'il y a une différence au niveau des sensations. On peut le faire aussi en latérocubitus en fléchissant le genou, ce qui en va enlever l'action du TFL. Au niveau fonctionnel, on peut faire un test dynamique en appui et debout. Donc on le demande au patient de tenir sur une jambe, de lever l'autre et se tenir par exemple genou fléchi, et on va déjà voir s'il y a une différence au niveau de la stabilité. On peut aussi, moi j'aime bien le faire, rajouter une contre-pression sur l'épaule opposée du moyen fessier qu'on teste pour savoir un petit peu si contre une force il va y avoir une perte de stabilité au niveau du contrôle du bassin. Voilà. Se méfier aussi, il peut y avoir des gens qui arrivent avec un très bon TFL à tenir cette position, donc des fois on est amené à faire un léger déverrouillage, 20 degrés de flexion de hanche pour voir un petit peu si la stabilité est toujours aussi bonne. Pour le quadriceps, le test donc se fait en décubitus. On va demander au patient de lever la jambe contre résistance jusqu'à une hauteur d'à peu près de 45 degrés. Donc on va tester la contraction du quadriceps. Donc là, plusieurs possibilités. Moi, j'aime bien faire aussi le testing de la réactivité. Donc, je vais demander au patient, quand je tape sur sa jambe, de lever le plus vite possible, le plus fort possible, pour voir une différence droite-gauche. Si au niveau de la réactivité, on peut avoir souvent un patient qui va lever la jambe, d'abord la cuisse, et après verrouiller. Donc, c'est comme s'il y avait deux temps pour pouvoir verrouiller le genou. Donc, ce retard de verrouillage du genou, déjà est un signe souvent d'inhibition motrice du quadriceps. Ensuite, on peut cibler le vaste interne, même s'il n'existe pas de testing musculaire de vaste interne précis, ça n'existe pas, mais on peut faire quand même une petite rotation externe de la jambe pour voir si on a vraiment un déficit du vaste interne. Ensuite, on va tester assis le patient. Là, on va tester sur tous les modes. On va tester aussi bien en statique, faire un break test. Donc, on demande au patient de tendre la jambe, on place une main sur la jambe, une autre sur la cuisse, et on force pour voir la résistance du patient au break test. Ensuite, on peut tester en concentrique. On peut tester aussi en excentrique sur toutes les formes, donc toujours en bilatéral. Le but, c'est de voir une différence. Ça va nous servir aussi, tous ces diagnostics, pour faire la séance de reprogrammation neuromotrice par la suite. On va choisir le test le plus, on va dire, là où il y a plus de sensations, que le patient relève le plus de sensations, de différences entre la droite et la gauche. Testing dynamique, donc fonctionnel du quadriceps, ça va être un saut unipodal vers le haut, où là, on va tester aussi bien la phase d'ascension que la phase de réception et les sensations, etc. Donc, la reprogrammation neuromotrice, le principe, c'est qu'on va partir de l'analytique vers le fonctionnel, puis éventuellement le geste technique. Qu'est-ce que c'est? Donc, classiquement, hein, c'est un procédé qui peut être travaillé sur la relation entre le cerveau et tous les effecteurs moteurs. Donc, il peut s'agir aussi bien d'un travail rééducatif classique, hein, mais aussi un travail sur la gestuelle sportive. Donc, on va le retrouver aussi bien en rééducation que ça peut être si c'est en post-opératoire, en post-opératoire, en rééducation ou en réathlétisation. Comment ça marche? Eh bien, on se sert d'un triptyque. C'est les sensations proprioceptives, classiquement, hein, déjà, c'est ce qu'on fait en rééducation, mais on va vraiment creuser un petit peu plus. L'imagerie mentale, pourquoi c'est très intéressant d'avoir cette imagerie mentale, et les sons de basse fréquence. Donc, les sensations proprioceptives, comment ça se passe? On va rechercher dans un premier temps toutes les modifications à l'exécution des gestes et l'évaluation des systèmes de compensation mis en place par le patient. Donc, c'est un bilan classique. Et là, quand on réalise, comme on a vu tout à l'heure, les testings sur le moyen fessier et le quadriceps, on va chercher à creuser un petit peu plus la différence de sensation que peut avoir le patient entre la droite et la gauche. Et ça, c'est important. C'est important de vraiment noter toutes les sensations. Il faut que ce soit aussi les mots du patient. Toutes les sensations que le patient a sur le moyen fessier, le quadriceps, et on les note. Parce que ça, c'est important que ce soit vraiment les mots du patient. Ensuite, le deuxième temps, donc c'est un travail proprioceptif de ressenti du patient et de voir un petit peu ce qu'il ressent ou pas. L'imagerie mentale, donc comme je l'ai dit, c'est un processus très intéressant parce qu'il existe vraiment une équivalence neurofonctionnelle entre l'imagerie et l'exécution réelle. C'est-à-dire que quand je pense faire un mouvement, j'allume les mêmes aires motrices que si je réalisais le mouvement. Donc, la principale qualité, c'est qu'on va le faire hors action sans le réaliser. Donc, potentiellement, je peux imaginer le mouvement le plus optimal possible sans avoir à le réaliser. Donc, ça permet d'activer des connexions neuronales au niveau des aires motrices sans avoir déjà la douleur de la réalisation de mouvement, dans le cadre, par exemple, du syndrome von Mayer-Patelle. Donc, ça, c'est important. Les patients arrivent à se visualiser et à mentaliser le mouvement sans, par exemple, la douleur. Donc, ici, vous avez une étude d'Anakawa qui montrait, donc, dans la première phase ici, ce qui se passait au niveau des aires motrices quand on stimulait certains muscles. Mais lorsque j'imagine faire le mouvement, troisième phase, quand je réalise le mouvement, qu'est-ce qui se passe? Et après, il a comparé les différentes phase et montrer que, en fait, donc, quand j'imaginais le mouvement, eh bien, finalement, c'était les mêmes zones que quand j'aurais réalisé le mouvement. Les sons de basse fréquence, ces sons de basse fréquence, ils vont permettre deux choses. Ils vont permettre de mettre le patient dans un certain état qu'on appelle le mode alpha, et cet état-là va permettre d'activer les aires motrices du cerveau. C'est un peu comme si on mettait le cerveau en mode réception. Le cerveau donc fonctionne avec plusieurs gammes d'ondes, alpha, bêta, gamma, et les aires motrices préférentiellement vont travailler avec les ondes alpha. Donc nous, ce qu'on va mettre, c'est mettre le patient dans un certain état, on va dire, de relâchement, de préparation à retenir ce qu'on va faire lors de la séance de reprogrammation neuromotrice. Le deuxième type de son qu'on appelle associé, il est choisi par le patient et c'est ce son-là qui va permettre d'ancrer à chaque fois une chose qu'on voudrait que le patient arrive à maintenir. Donc ça va être la contraction, le relâchement, voilà. Ça, tout dépendra du but de la séance. Pour pouvoir réussir une séance de reprogrammation neuromotrice, il y a quand même des limites. Donc, il ne faut pas avoir une capacité cognitive trop dégradée. Ça s'adresse souvent en neurologie, lorsqu'on a des patients qui ont du mal à comprendre ce qu'on leur demande. Ensuite, les atteintes mécaniques, hein, voilà, si on a une rupture musculaire ou une atteinte de moelle, enfin je ne saurais pas, mais toutes ces choses-là vont être une contre-indication. On ne fait pas repousser les nerfs, ni la moelle. Les patients hyperalgiques, donc tout à l'heure j'ai parlé de la douleur, hein, comme je vous ai dit, que la douleur était une contre-indication. Si la douleur est trop présente, trop aiguë, on n'arrivera pas à faire une bonne séance. Mais si c'est une douleur plutôt de type gêne, voilà, ça peut être, on peut faire tout à fait une séance avec ça. Ce procédé, donc, on le voit, est tout à fait non intrusif, il n'y a pas d'effet indésirable ni secondaire connu à ce jour, donc on peut vraiment faire une séance même chez les patients qui sont douloureux avec cette douleur gêne, ça on va pas augmenter leur douleur. Pour réaliser une séance, donc on va faire une séance avec un bilan, ensuite on va réaliser la reprogrammation neuromotrice et on va tester directement ce qu'on a fait lors de la séance. Donc là, plusieurs possibilités. Soit il y a encore quelque chose à reprogrammer et à ce moment-là, on refait une séance. Soit on se dit qu'on a déjà atteint ce qu'on voulait faire et à ce moment-là, on va revoir le patient généralement un mois après et refaire un bilan, voir s'il y a des choses qui sont apparues, tester ce qu'on avait fait lors de la première séance. Cas clinique, une patiente qui était venue vers moi, qui avait des douleurs antérieure du genou, elle avait un valgus très important au niveau du genou, donc c'est une patiente qui s'est présentée à moi un an après avoir eu un traumatisme assez, on va dire, bénin du genou, hein. Elle a juste tapé, c'est une jeune fille qui faisait du taekwondo, elle a tapé dans un sac, douleur très forte au niveau du genou, elle a fait toutes les analyses possibles et imaginables, radio, scanner, IRM, aucune atteinte au niveau du genou, que ce soit ligamentaire, osseuse, elle se présentait à moi juste avec une douleur antérieure du genou et une marche avec un valgus très important du genou qui l'empêchait de faire quoi que ce soit dans sa vie courante ou bien sûr dans le sport. Donc, on a fait une analyse, un bilan, on a retrouvé un déficit assez important du moyen fessier et une perte d'activation au niveau du quadriceps, ce qui fait qu'elle n'arrivait plus du tout à contrôler son genou. Donc, on a fait une séance de reprogrammation, on s'est attelé à faire et moyen fessier et quadriceps, et en une seule séance, donc lors de la marche, elle contrôle très bien son genou, elle n'a plus ce valgus avec cette angulation assez importante du genou, elle n'avait plus. Car elle arrivait à contrôler le genou. Comment on peut traiter des douleurs antérieures du genou? Donc, si on doit retenir quelque chose aujourd'hui sur ça, c'est cette reprogrammation neuromotrice avec la méthode Allian. On va travailler sur deux muscles cibles, moyen fessier, quadriceps, voir si avec déjà cette reprogrammation, les douleurs diminuent. Ensuite, au niveau fonctionnel, on peut éventuellement aussi faire des séances sur position de stabilité du tronc, position de stabilisation du genou, par exemple, sur un saut. Une fois que ça, c'est acquis, on n'a plus de douleur, on a une bonne stabilité, un bon contrôle, éventuellement, on pourra refaire une séance sur une gestuelle sportive si il y en a besoin. Je vous remercie toutes et tous. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis peut-être à une autre fois.